Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. C'est le 85e épisode, l'épisode numéro 84, et nous sommes le 16 mars 2023. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux, tels que Julia March. Julia, bonjour.
Bonjour.
Qui es-tu, Julia ?
Je suis Technical Account Manager chez Clever et je suis aussi une très gentille blogueuse. Voilà.
Ok, c'est cool. Je suis également accompagné de Pierre Lemasson.
Bonjour.
Bonjour Pierre. Qui es-tu, Pierre ?
Je suis technicien support chez Clever Cloud et également tweeto compulsif.
Un frère.
Et je suis accompagné de Julien Durillon.
Bonjour.
Alors quand je dis je suis accompagné de Julien Durillon, en fait...
La musique du montage.
Qui es-tu, Julien ?
Julien Durillon, je suis directeur du support client chez Clever Cloud et il y a 2-3 logiciels dont c'est ma faute aussi dans la plateforme.
Voilà, parce qu'on a créé Clever ensemble avec Julien il y a maintenant l'époque où on était jeunes.
Et maigre.
Donc du coup, oui, il n'y a pas d'invité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu à l'arrache, hein, quand même. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Et du coup, petit épisode avec les quelques news qui traînaient avant de retrouver le rythme normal des épisodes avec des invités. Et puis avec des gens que vous aviez peut-être jamais vus. Parce que du coup, comme chez Clever, on grossit, il y a de plus en plus de gens. Et voilà, donc il faut savoir que ce n'est pas une obligation professionnelle chez Clever Cloud de participer au podcast. Il y a des gens que vous ne verrez jamais parce qu'ils n'ont pas envie. Puis il y a des gens, ils ont envie. Et du coup, voilà, il y a des fois des gens dans le podcast et des fois personne dans le podcast. Et bon, ok, là, on était à la bourre, clairement. Je vous propose qu'on commence par la première news très économique, mais qui impacte pas mal notre petit monde de start-up. La Silicon Valley Bank est déclarée en banqueroute. Donc du coup, la Silicon Valley Bank, en fait, c'est une banque assez importante aux États-Unis. Et surtout, dans la Silicon Valley, il y avait énormément de startups qui avaient leur compte en banque chez eux. Donc là, a priori, c'est une crise qui va être bien gérée parce que le gouvernement américain a lancé une espèce de quoi qu'il en coûte absolu, genre tous les déposants seront remboursés et en plus la banque va être rachetée, enfin un truc assez carré. Mais ça fout un peu le boxon et puis bah il y a des gens qui se retrouvent avec de l'argent bloqué, etc. Je vois que tu nous as mis pas mal de liens là-dessus. Julia, tu avais un truc sur le stablecoin for mentally unstable. Et c'était une des raisons qui expliquait la chute de la SVB, c'est ça ?
Absolument pas. Non, c'est juste que Circle Firm, qui émet un stablecoin, qui lui est, comment dire, baqué, renforcé adossé, par du cash, oui. Adossé par du cash, était exposé à SVB, Silicon Valley Bank. Donc, ça a été dépégué. Donc, c'était réputé comme une des stablecoins les plus stables de l'écosystème, le truc qui bouge pas, qui reste à 1$ constamment. Et en fait, les stablecoins sont un outil qui sert beaucoup, beaucoup dans la finance décentralisée parce que ça permet de sécuriser une valeur et donc de réaliser des gains ou d'éviter des pertes. Et là, en fait, le truc s'est dépayé, il est tombé jusqu'à 85 centimes, ce qui n'est pas beaucoup en termes de 1$, mais quand il y a des millions et des millions en assets en USDC, eh ben, ça fait de grosses pertes. Et donc, les gens ont un peu paniqué. Mais je pense qu'il y a aussi la question que c'est un stablecoin qui est centralisé, donc forcément qui est exposé aux aléas de la finance, quoi qu'il arrive. Voilà un peu le lien. Donc, ça, la panique s'est un peu étendue. On va dire il y a les marchés financiers traditionnels, et puis, enfin, de fondations de start-up et compagnie. Et il y a aussi, ça a aussi eu des impacts sur la crypto, qui d'ailleurs a plutôt monté face à cette nouvelle. Parce que forcément, crise de confiance dans la banque traditionnelle, ça fait grimper d'autres actifs. Donc voilà un peu le lien avec le stablecoin. Et non, la chute d'SVB n'a rien à voir avec la crypto, même si je pense qu'il y a il y a quelques news qui disent, bon, comment on peut essayer de blâmer la crypto pour ça ? Pour une fois, Non, pas le cas. ce n'est pas notre faute. Voilà. Donc,
vous n'aurez pas de responsable ici.
Non. Mais du coup, c'est un peu, ça relance un peu le débat sur le fait d'avoir un stablecoin qui est décentralisé et baqué par de la crypto. C'est un peu ce qu'avait essayé de faire NoOne avec Luna et Terra. Bon, c'était un schéma de Ponzi hallucinant. Forcément, ça n'a pas du tout tenu la route. Mais bon, ça relance le débat sur le fait de décentraliser un stablecoin. Et moi, je pars du principe qu'on doit faire le deuil de la stabilité, en fait, dans la crypto. Le truc n'est pas stable et c'est pas forcément une mauvaise chose, quoi. Ça n'a pas du tout les mêmes impacts.
De toute façon, si j'ai bien compris, Silicon Valley Bank, c'est essentiellement l'augmentation des taux par la Fed qui l'a planté. Hein. Mais de toute façon, c'est comme à chaque fois.
Il y a aussi eu Peter Thiel qui a dit aux investisseurs retirez votre argent. Et là, quand tout le monde se rue en même temps pour aller chercher son argent, forcément, ça accélère un peu la chute.
Mais quand t'es pas capable de te couvrir parce que les taux sont trop hauts, bon, bah, c'est la fin du monde, quoi.
Je crois que vous avez pas fait de swipe ou enfin c'est.
Je vois que t'as mis un lien qui était Silicon Valley Bank SVB Collapse Explainer Statue Venture Capital. Tu veux parler de ce lien-là?
Alors attends, je vais cliquer dessus pour me souvenir. Ce que c'est. Je crois que c'est l'article. Article qui récapitule un peu toute l'histoire. Ouais, il explique un peu tout le processus, tout ce qui s'est passé. Ça résume un peu l'affaire. Je le trouve très bien, cet article, parce qu'il aborde vraiment tous les sujets, les effets collatéraux et les conséquences possibles, sans s'avancer non plus des masses. Donc je l'ai mis, c'est pour avoir un peu l'info de l'histoire depuis le début, quoi, ce qui s'est passé. Systémique.
Là clairement, même si tout le monde va récupérer son blé à la fin, là t'as plein de gens dont le compte est bloqué. En clair, il y a des gens, ils savent pas comment ils vont payer leurs employés, parce qu'en fait, leurs assets sont gelés le temps de trouver une solution, quoi. Ça va être un peu compliqué, quoi, parce que c'était.
Pas que leurs employés, leurs fournisseurs. Quand t'as plus accès à du cash, t'es dans la merde, quoi. On va dire, il y a les fournisseurs, donc ça fait un effet domino. Ou si les fournisseurs ne sont pas payés, ils n'ont plus, eux, même s'ils sont pas exposés à SVB Bank, si leurs clients le sont, c'est inquiétant.
Pareil, cocher, ouais. Mais la banque a été quand même sauvée en un temps relativement record, ce qui est assez rare dans l'histoire des banques américaines et même globales. En moins de 4 jours, la Fed, plusieurs banques, le gouvernement avait pris position, enfin, avait fait une déclaration, alors que d'habitude, soit on la laisse couler, la banque, mais là, le risque était trop gros pour que ça se propage, alors que c'est pas une grosse banque, apparemment, SVB, en termes de.
C'est une petite banque. C'est pas énorme, après, t'as des trucs qui sont chiants, t'avais une partie des dépôts Stripe qui sont dedans, t'as des gens qui se retrouvent avec l'argent qu'ils gagnent sur Stripe de freeze. Parce que t'avais une partie des wallets Stripe qui était chez SVB. En fait, ils ont plusieurs holders, qui sont énormes Stripe, donc ils ont plusieurs holders, mais t'as des gens dont le wallet de récupération donc ton PSP, Stripe te sert de PSP, donc tu récupères des sous. Il y a un moment, ça passe par un wallet virtuel qui lui en fait est géré dans une banque. Et donc il y a une partie, Stripe s'est retrouvé avec une partie de ses wallets scellées chez SVB, quoi.
Stripe, ils retiennent pendant... Ça dépend de la durée, ça dépend de la nature de la transaction, mais entre 7 et 14 jours, parfois plus, ils retiennent le montant au cas où il y a des demandes de remboursement. De la contestation. Et c'est pas le vendeur qui décide, c'est Stripe qui décide arbitrairement. Et ils sont très très lax là-dessus. Donc ils retiennent très longtemps l'argent. Et en fait, faut pas oublier qu'ils ont un gros monopole, Stripe. D'ailleurs, ils ont travaillé à ce monopole. Il y a Amazon et Stripe qui sont les deux gros monopoles des processeurs de paiement sur Internet. Exprès, enfin, je veux dire, ils se sont bien démerdés pour que ce soit eux qui contrôlent le truc. Donc, si à un moment donné ils peuvent pas payer les gens, Bah, c'est l'entièreté de la vente sur Internet qui se retrouve dans la panade. Voilà. C'est...
Tu veux dire que des acteurs comme MangoPay, par exemple, en Europe ou au Luxembourg, je ne sais plus d'où ils sont, ne seraient pas confrontés au même problème pour le coup ? Ils ne retiennent pas autant, aussi longtemps l'argent en banque, du coup ?
Je ne sais pas comment
ils retiennent l'argent. Si, ils retiennent l'argent en banque. En fait, tu as une obligation. En fait, le truc, c'est.
Oui, c'est ça. Veux,
c'est en fait, il faut que tu attendes la fin, la rédemption, si tu veux, de ton virement. Et après, tu décides de côté, si tu veux, les chances que ton client se fasse redeem ses virements. Et donc, en fait, si tu veux, tu n'es pas obligé de garder tout l'argent. Tu peux en avoir qu'une proportion. Mais si, par exemple, un de tes clients passe son temps à se faire contester tous ses virements, bon, ils vont enquêter dessus et essayer de trouver pourquoi et éventuellement dégager le client, parce que c'est jamais terrible d'avoir un client qui est assez douteux. Parce que si tu veux, les gens, à chaque fois que les gens font un paiement, si tu veux, ils le contestent, bon, c'est que le client est assez douteux dans son approche. Et du coup, tu dois garder une partie de la somme pour être capable de réagir si jamais on vient te chercher, parce que t'es un établissement de paiement. Tu peux pas faire crédit à ton client si jamais on venu chercher tu vois, son argent. La structuration, c'est que si tu veux, t'as des établissements qui sont des établissements de paiement, des établissements bancaires, et c'est pas la même chose. Et en fait, tu n'as pas le droit de faire crédit quand t'es établissement de paiement, parce qu'en fait, t'as pas de capacité.
D'autorité.
Et puis surtout, tu peux pas te retourner derrière une banque centrale pour lui emprunter de l'argent si jamais t'as un problème. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu gères en bancaire en dernier recours, c'est que tu te retournes vers la banque centrale et t'empruntes de l'argent au taux directeur. Mais du coup, SVB va être acheté. C'est ça, Julien ?
Oui, c'est le seul.
J'ai vu que t'as émis un article là-dessus.
Oui. Oui, ils vont être achetés. Il y a c'est encadré par les régulateurs avec des conditions hyper strictes. Notamment, en fait, les acheteurs ne peuvent pas avoir, enfin, doivent abandonner tout business en lien avec la crypto. Moi, forcément, je regarde les petits trucs qui pop. Et oui, il y a. En fait, c'est le seul espoir pour que les gens récupèrent leur argent, c'est que la banque se fasse racheter sans que ce soit financé par les impôts, par l'argent public aux États-Unis. Voilà, globalement. Mais ça a provoqué une crise un peu de confiance envers les banques à chaque fois qu'il y a une nouvelle comme ça, parce que je pense que les gens se souviennent aussi de 2008 et ouais. ça n'évoque pas de bons souvenirs dans le système financier. Bah, disons que quand les gens te confient leur argent,
a priori.
Quand tu confies ton argent à une institution, ouais.
Oui, tu dis tu confies ton argent à une institution et que ton argent ne revient pas. Les gens ont légitimement une crise de confiance, c'est ça.
Mais même quand tu ne peux pas y accéder, en fait, si tu ne peux pas accéder à ton argent, à un moment donné, ça évoque des questions, quoi.
Bah, l'effet de vague a été quand même assez considérable, hein, parce que c'est quand même, ça a touché jusqu'à hier Crédit Suisse qui a dérouté sévère en bourse, qui a ensuite impacté tout le reste. Tout est parti de. Ouais, alors...
Crédit Suisse, c'est une autre opération.
C'est encore autre chose. Hein.
Et puis je t'invite à regarder le cours du Crédit Suisse sur la dernière année.
Oui, il avait déjà perdu énormément. C'est 90%, je crois.
Non, par contre, ce qui est bien, c'est que là, tu as toutes les banques qui ont dévissé en bourse hier et aujourd'hui. Donc, si vous voulez acheter dans le bancaire européen, vous pouvez y aller. Parce qu'en fait, même ceux qui sont exposés à que dalle, c'est les soldes, voilà, et ça finira toujours par remonter, voilà. Donc si vous avez un peu de blé de côté et que vous voulez lutter contre l'inflation, je pense qu'il y a des deals à 15 points à faire sans s'emmerder, tu vois. Mais ouais.
Ceci n'est pas un conseil d'investissement.
Oui, Ceci est un conseil en investissement.
Non, parce qu'on n'est pas certifié, puis en plus on n'est pas un investisseur professionnel. Ouais. Mais effectivement, là, c'est un peu le bordel, ça secoue, et en fait, ça a des impacts sur la vie réelle. Nous, par exemple, on sait que c'est pas trop le moment de débarquer en disant, alors on doit acheter de nouveaux serveurs, donc pour tirer la nouvelle enveloppe de nos prêts. C'est pas le moment. Et a priori, nous, on fait pas partie des comptes que t'es hébergé sur SVB, donc du coup, on utilise encore Stripe pour récupérer les paiements de nos clients. Est-ce qu'on a fait le tour sur notre ami la finance mondiale ou pas ? Promis, la prochaine fois qu'on vous parle crypto, c'est pour vous parler de jolies œuvres sur NFT. Ok. Donc, toujours chez nos amis américains, Amazon a fermé 8 stores de Go. Donc, vous savez, Amazon Go, c'est les magasins où vous arrivez, tout est fait en reconnaissance d'image, tu prends des trucs et tu sors. Alors, j'ai fait le test, j'y étais réellement dans un Amazon Go Store pour tester, j'ai trouvé ça bluffant, la façon dont ça fonctionnait. Mais a priori, ça se fonctionne pas toujours aussi bien. Parce que il y a une trentaine de stores au global Amazon Go, et là ils en ferment 8 où a priori ça marchait pas et ça faisait pas de blé. Ils te disent que c'est pas un problème, enfin qu'ils vont continuer le projet et que c'est pas un problème, mais du coup voilà.
C'est l'emplacement qui était mauvais en fait peut-être ou.
Bah écoute, moi j'ai regardé les emplacements où ils ont fermé, je suis très surpris. Enfin, pour moi, c'est des trucs qui tournent, quoi.
Peut-être qu'il faut qu'il y ait un certain seuil de rentabilité pour que ça compense peut-être l'achat technologique derrière, que ça, en termes de matos, parce que j'imagine que ce genre de supermarché, pas virtuel, mais physique, mais où tu prends et tu te barres, ça demande peut-être en termes de ressources, c'est assez considérable, j'imagine. Les caméras, les capteurs, les.
C'est à Seattle, New York et San Francisco, des villes où les loyers sont exorbitants. Je pense que à mon avis, c'était pas rentable. C'était pas rentable.
Tu penses que c'est une opération carrée, quoi.
Ouais. Bah, à Seattle, New York, San Francisco, ils en avaient 4 à San Francisco.
Il y a un point commun, c'est que c'est des villes de la tech. C'est peut-être des endroits où il y a eu beaucoup de lay-offs, où des gens ont été licenciés récemment. C'est peut-être suite à ça, en fait, du coup. Ce serait peut-être ça le point commun. J'ai pas le temps de regarder la news, mais.
Voilà, c'était la news Amazon Go. C'est très américain comme podcast. Toujours dans les news américaines. Petit article Business Insider. Vous souvenez à chaque fois qu'on dit la société du capitalisme de surveillance et que les gens te disent « oui, mais moi, j'ai rien à me reprocher », là, la police indique clairement utiliser les données fournies par Facebook, Google et Amazon pour pouvoir poursuivre les femmes qui cherchent à se faire avorter dans les États dans lesquels l'avortement a été rendu illégal aux États-Unis suite à la chute de l'arrêt Roe versus Wade. Et donc, nos charmantes boîtes de la tech, vous savez, celles qui passent leur temps à dire qu'elles sont pour l'inclusion et la diversité, etc., LGBT friendly, droits de la femme, voilà, fournissent la data à la police américaine en vue de faire condamner les femmes qui recherchent l'avortement dans ces États-là. Voilà. Je trouvais que c'était une news consternante.
Il y a Grindr aussi qui fait la même chose, qui vend à qui veut bien acheter les données des personnes qui sont sur Grindr. Notamment, là, la dernière, c'était ils l'ont vendu.
Alors, normalement, personne finira enceinte sur Grindr, Julia.
Non, mais c'est pour traquer les prêtres homosexuels. Voilà, pas ceux qui vont toucher les enfants, non, mais les prêtres homosexuels qui sont sur Grindr. Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a des églises qui achètent à Grindr. Incroyable, les données.
Attends, t'as un article qui prouve ça, parce que faut quand même qu'on donne
une source. Alors attendez, je vais le retrouver.
Parce que faut savoir qu'aux États-Unis, il y a régulièrement un scandale où tu chopes un sénateur républicain, machin, et en fait, le mec, tu chopes sur Grindr dans les toilettes d'un aéroport à essayer de le choper. Donc ça, c'est devenu un cycle assez récurrent aux États-Unis. Hein, le républicain ultra qui, en fait, à plein d'autres activités, dirons-nous. Mais si en plus Grindr vend sa data à des gens pour dénoncer, c'est creepy,
ils en sont pas du tout à leur première frasque. Attends, je te mets l'info. C'est TF1 pour le coup. Voilà. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis. On peut se dire, ouais, moi j'ai rien à me reprocher. Déjà, les gens qui disent j'ai rien à me reprocher, moi je trouve ça suspect. C'est soit t'es complètement aliéné par ta propre béni oui-oui-once, soit tu n'as pas conscience du monde dans lequel tu vis, parce qu'il y a forcément un endroit dans le monde où ce que tu es, ce que tu fais, tu as à te le reprocher, et en plus, t'as vraiment confiance dans la stabilité des lois qui régissent ton pays ou ton continent, hein. Donc, c'est quoi?
Ah ouais, non, c'est vraiment ça. En fait, ils donnent vraiment les datas pour pouvoir targeter les gens. C'est magnifique.
C'est ça, c'est l'Église catholique. 4 millions de dollars hein, pour identifier les prêtres homosexuels. Bon, ils se disent homosexuels, pédophiles, peut-être que d'une pierre deux coups, tu vois, ils se sont pas encore mis à la page. Voilà, globalement, c'est hyper assumé en plus. Donc,
c'est vrai qu'en plus, ils les vendent en direct, ils les vendent même pas via un broker ou un data broker anonymisé. C'est clairement, allez-y, servez-vous, tant que vous payez, en gros.
Alors que si on lit ce demain, on se rend compte que pour trouver les prêtres homosexuels, il suffit d'entrer dans une église.
Pourquoi ? Explique ta blague, je n'ai pas compris.
Ouais, il y a eu un livre, un journaliste d'investigation, je crois, qui a écrit un livre où il est allé pendant, comment on appelle ça, en immersion. C'est quoi le mot pour l'investigation là
En immersion
ouais. dans le milieu de l'église catholique. Donc il est allé rencontrer des prêtres, des moines, etc. Et il s'est pointé à chaque fois en disant « Oui, bonjour ». Il n'était même pas tant en immersion que ça, parce qu'il disait « Je fais un livre sur l'homosexualité dans le clergé ». Et voilà, sur comment est-ce que pas mal de gens, à une époque, ils ne voulaient pas se marier avec une femme parce que ce n'était pas trop leur kiff, mais comme il y avait une forte pression sociale, ils sont partis dans les ordres pour chercher, pour qu'on arrête de les embêter globalement au niveau de leur famille. Donc le type est allé interviewer des gens, et dans son bouquin, il raconte qu'il s'est fait draguer par des moines, des trucs comme ça. Enfin, et en fait, les gens étaient très ouverts là-dessus, finalement. Et bref, je vous laisserai lire le livre complètement, mais le bouquin est assez sympa, et le type était très ouvert dans sa démarche, et en fait, il a été accueilli très très bien, et... Il y a des trucs assez drôles, par exemple.
C'est lequel tu parles de Sodoma, bouquin de Frédéric Martel.
C'est ça, j'avais oublié le nom du...
C'est un des prods de France Culture, et j'écoute beaucoup France Culture.
Et voilà, avec des effets un peu marrants, où, en tout cas pendant une certaine époque, plus les prêtres faisaient des sermons qui étaient homophobes, globalement, plus ils étaient remarqués par la hiérarchie, et plus ils montaient dans la hiérarchie, et donc en fait, et souvent ceux qui étaient les plus virulents étaient ceux qui avaient le plus à se reprocher. Alors je fais des guillemets, hein. C'est eux qui se reprochaient des choses,
les plus actifs,
enfin les plus actifs non, ou les plus les plus homosexuels en tout cas, et en tout cas qui du coup, pour essayer de cacher ça, ils étaient encore plus virulents. Enfin, vous voyez un peu la mécanique un peu classique.
C'est souvent
et
comme
coup,
ça.
Plus tu te rapproches du pape, plus la proportion est grande. Enfin, bref, le bouquin est assez cool.
Ouais, en fait, la conclusion du bouquin, c'est qu'en fait, enfin, c'est un bouquin, c'est une somme. Hein. Le bouquin est énorme, mais en fait, la conclusion du bouquin, c'est de dire que le Vatican est la plus grosse communauté homosexuelle, homophobe d'Europe.
Bravo les homosexuels.
Le bouquin est passionnant.
Le plus grand sauna gay d'Europe.
Bravo l'Église catholique. Bravo l'Église catholique.
Ça revient au même.
Autres, tu vois. Non, ça revient pas du tout au même. Il y a des gens qui ont des drames dans leur vie, puis il y a des gens qui sont tout à fait cohérents, tu vois. Enfin voilà. Mais moi, ce que je trouve passionnant, en fait, plus grandement dans cette histoire, c'est à partir du moment où on confie des données à une entreprise privée qui a en fait une loi qui permet au gouvernement d'aller taper dedans, en clair, tu permets au gouvernement de créer des fichiers qui sont basés sur tes préférences sexuelles, ton envie ou pas d'avorter, ce que tu achètes, donc par exemple ton alimentation, ce qu'on pourrait très bien aussi imaginer, des gens qui sont persécutés parce qu'ils ne mangent pas comme il faudrait. Moi, je me souviens avoir vu des articles qui disaient qu'avec le fait qu'Amazon récupère la totalité des données de consommation de certaines personnes, tu avais des assurances santé aux États-Unis qui voulaient attraper les données d'achat de certaines personnes pour dire que s'ils faisaient des AVC, c'était de leur faute parce qu'ils bouffaient de la merde. Et donc, du coup, ils se déportaient du contrat de santé. Et en fait, voilà, je pense qu'il y a un moment, il faut, 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 faut être clair en fait avec ce qui est en train de se passer. Il faut réaliser à un moment qu'on donne ces données à des gens, quoi. Et donc, à un moment, c'est ça. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en général, on nous dit toujours, ce ne sera pas une réelle situation. Bah, si, clairement. Et en fait, la question, c'est quelle peut être l'éthique de ces gens-là. Je prépare une transition. Et notamment, comment on fait l'éthique dans ces trucs où on a de plus en plus d'AI et d'organisations intelligentes. Et là, Microsoft a fait une petite annonce, Julien.
Alors, ce n'est pas spécialement une annonce.
Oui, ils auraient préféré qu'on n'en parle pas.
C'est ça, je pense. Globalement, on voit Microsoft comme beaucoup des grosses boîtes de la tech récemment, après avoir embauché comme des fous il y a 2-3 ans, maintenant ils virent comme des fous. Enfin, ils virent comme des fous, je ne sais pas combien ça représente de personnes Microsoft, mais en tout cas, ils ont dégagé récemment à peu près 10 000 employés. Dans toute l'entreprise. Et en fait, dans les 10 000 employés, il y a globalement toute l'équipe. Alors ça s'est fait petit bout par petit bout, mais il y avait une équipe d'une trentaine de... Non, je vais expliquer quelle équipe peut-être d'abord. Donc toute l'équipe dont le boulot était de s'assurer de l'éthique et de la responsabilité, etc., vis-à-vis de toutes les recherches sur les intelligences artificielles. Donc globalement, c'est interroger à chaque fois qu'on fait un produit basé sur l'intelligence artificielle, comment est-ce que ce produit ne fait pas mal à des gens, de façon intentionnelle ou non intentionnelle. Et voilà, et donc le boulot de cette équipe, c'était d'être un peu dans les réunions autour des produits d'AI. Et ils avaient fait aussi un jeu, un RPG, qui s'appelle Judgment Call. Donc l'appel du jugement, pour faire jouer les autres gens de Microsoft, pour leur faire visualiser quelles sont les problématiques que pourrait avoir l'utilisation d'intelligence artificielle. Donc, on parle de problématiques...
Un peu comme...
Ouais.
Ah, pardon, je t'ai interrompu. Non, je parlais un peu comme Moral Machine.
Ouais, par exemple. Mais voilà, donc les problématiques des intelligences artificielles, on peut les rappeler rapidement, mais souvent c'est comme on se base sur un certain ensemble de données pour construire des règles, et bien si l'ensemble de données est lié à quelque chose qui était malveillant ou en tout cas qui n'était pas juste, ben c'est les règles, enfin l'intelligence artificielle va en déduire des règles qui sont injustes. Et donc perpétuer certaines choses. Par exemple, je crois qu'il y avait eu il y a quelques années Amazon qui avait des algorithmes qui regardaient tous les gens qui avaient été embauchés chez Amazon et qui essayaient de réembaucher des gens qui avaient le même profil. Et globalement, ça voulait dire qu'ils prenaient que 2% de femmes dans les équipes tech ou un truc comme ça. Je vous le fais grosso modo. Je crois qu'on en a parlé il y a 2-3 ans dans un des premiers récits. Mais voilà, donc pour donner une idée, et donc cette équipe, ils étaient une trentaine de personnes, ils ont été diminués à 7 personnes, et les 7 personnes ont été finalement explosées, envoyées dans d'autres équipes. Donc globalement, cette équipe qui servait un peu de garde-fou, on va dire, a été démantelée, quoi. L'article raconte un petit peu les différents calls qui ont été faits, où les gens de cette équipe disent c'est quand même pas ouf. Voilà. Et les raisons de ces choses-là, c'est que Microsoft essaye aussi, enfin une raison avancée par l'article, Microsoft essaye d'être un peu, comme tout le monde, hein, de passer devant la compétition en termes d'intelligence artificielle, de produits, etc. Et c'est une équipe qui te dit, on va peut-être se poser et regarder les effets délétères que pourrait avoir ce produit. Ça les arrange pas trop parce que ça retarde la sortie de certains produits. Quoi.
Ouais.
Vas-y.
Non, est-ce qu'ils donnent des raisons pour avoir dissous cette équipe? C'est quoi les raisons qu'ils avancent, s'ils en donnent, hein?
Bon, je pense que c'est dans les raisons on dégage des gens et on a besoin d'aller plus vite.
Et puis peut-être aussi l'arrivée de massive de ChatGPT, ce serait pas trop compliqué à gérer. Vu qu'ils mettent du ChatGPT partout dans tous leurs produits, avoir des responsables éthiques avec ça, ça va être compliqué à gérer de partout, en fait.
C'est ça, en fait. Ils veulent aller plus vite, et en fait, ils ont regardé, bah, cette équipe-là, ils nous ralentit, donc...
En fait, l'éthique, c'est quand même chiant, du coup, autant qu'on cancel l'éthique, quoi.
On cancel l'éthique. Est-ce que, en parlant d'intelligence artificielle, est-ce que je suis la seule à pas trouver ça super ouf, ChatGPT? Pourtant, j'ai beaucoup utilisé des outils d'OpenAI par le passé, mais je trouve vraiment pas ça ouf, quoi, les outputs que ça donne et globalement ce qu'on peut faire avec.
La version 4 est un peu mieux. Après, c'est comme disait Julien tout à l'heure, ça dépend sur quoi a été entraîné l'AI, en fait. Hein. Si ton jeu de données est plutôt bon, bah, ça te donnera des résultats plutôt fiables. Et si tu es avec de la merde, bah, ça te donnera de la merde. Hein. Pour résumer, il faut faire court. Mais... Après, pour certaines choses, ça peut être pertinent. Hein,
pour certains use cases. Aujourd'hui, ChatGPT, enfin, en tout cas la version publique qui est utilisée par les gens avec laquelle, de laquelle on se moque beaucoup, c'est quelque chose d'extrêmement généraliste et entraîné sur un set de données avec des infos qui sont... Enfin, potentiellement, ça va choper une info et son contraire, quoi, en fonction des sources de données. Et l'algorithme en lui-même, il n'est pas forcément déconnant si tu entraînes tout, par exemple, si tu prends, dans le cas du support client, par exemple, tous les tickets qui ont été ouverts sur les deux dernières années et leurs réponses, et bah, t'es sur un set de données qui est dans un domaine très précis, donc potentiellement t'auras des réponses qui seront plus on point que quelque chose qui est extrêmement généraliste où effectivement on se retrouve à avoir des choses comme ChatGPT qui essaye de te faire croire que non, Elon Musk il est mort ou je sais plus trop quoi.
En fait, le truc, c'est surtout que ChatGPT, il fait que de la peinture. Il ne fait que du langage. Il ne comprend pas ce qu'il raconte. Il fait que de la probabilité, en fait, de mots. Et donc, c'est pour ça que des fois, il se met à inventer des news, parce qu'en fait, il crée juste des assemblages qui, en fait, sont cohérents. En fait, la phrase est cohérente. Pour autant, comme il ne comprend pas ce qu'il fait, des fois, il fait n'importe quoi. C'est pour ça que des fois, quand il écrit du code, il écrit du code qui ne compile pas, parce qu'en fait, c'est juste une probabilité de mots. Par contre, ce qui peut être possible à faire, c'est recréer des programmes au-dessus et faire des assemblages d'intelligence pour ensuite faire de l'intelligence artificielle générale. Et tu vois, là, manifestement, ils sont en train de qualifier de mieux en mieux sur le code, parce que de plus en plus, le code qui est généré compile. Donc, c'est assez simple. Hein. Tu lui demandes de générer du code, tu comprends que c'est du code qu'il faut que tu génères, tu le fais passer dans un compilo pour savoir si ça marche, sinon tu régénères. Enfin, c'est le genre de choses hein, qu'il faut mettre en œuvre. Et ça, je pense que du coup, ça peut être quelque chose de pertinent de le regarder. Donc, pour moi, c'est un truc qui est en train d'évoluer et qui va avancer. Mais avant de faire une intelligence artificielle générale comme Jarvis à qui tu veux demander à la fois de te faire ton café, des informations, un calcul qui te manque et de te mettre de la musique, bah oui, clairement, on n'y est pas, quoi. Mais par contre, est-ce que ça progresse? Ouais. Mais il y a 2-3 points de R&D un peu compliqués à traiter pour être capable de passer l'intelligence artificielle générale.
Ça aurait eu le mérite de ChatGPT de faire une lumière pour le grand public sur l'intelligence artificielle de manière assez large, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Il y avait déjà eu 2-3 cas, mais là, c'est quand même assez massif. Hein, moi, j'ai des gens de ma famille qui ne parlaient pas du tout tech, etc., qui me parlent de ChatGPT. Je fais « Ok, donc c'est quand même bien rentré dans la tête des gens d'une manière ou d'une autre. » Et tu as eu quand même une certaine prise de conscience. Donc, tant mieux ou pas. Mais ça a marché pour ça.
C'est bien, enfin, je pense que c'est intéressant parce que le grand public, quand il entend intelligence artificielle, il imagine ben, Jarvis, quoi. Alors que là, effectivement, il se rend compte que le truc, parfois, il peut être complètement incohérent. Parce que,
ils se rendent compte que c'est bête.
Beaucoup d'articles qui sont sortis. Ouais, c'est ça, que c'est juste de l'assemblage, comme disait Quentin.
Moi, je pense que, enfin, après, tu vois, ça va commencer à rendre déjà des services. Par exemple, il y a une version de ChatGPT qui a été intégrée du coup à Bing par Microsoft. Donc, Microsoft finance massivement OpenAI et là a fait un gros deal pour intégrer de plus en plus ChatGPT à Bing. Et du coup, ça a eu des conséquences, n'est-ce pas, Pierre?
Oui, c'est ça.
Je sais.
Ça a quand même. Ça aura permis quand même de récupérer. Ça a attiré plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par jour sur Edge. Alors, Edge, c'est Le navigateur de Microsoft, le navigateur web, qui est équivalent de Firefox ou Chrome sur nos machines, qui s'appelait voilà, avant.
C'est plus un équivalent de Chrome où les mecs ont repeint.
Oui, c'est basé sur Chrome, effectivement, sur WebKit. Voilà. Non, c'est pas WebKit, c'est Chrome.
C'est carrément Chrome, en fait.
C'est Chrome, moi. Mais je sais pas, c'était quoi l'ancien nom de Edge? Je sais plus, il y avait un autre nom avant. Bah, c'était Internet Explorer, en fait. Voilà, c'était l'ancêtre de Edge et le successeur d'Internet Explorer. Et pourquoi les gens vont sur Edge, en fait, enfin, il y a plus de monde qui utilise Edge, en fait, parce que je crois que c'était plus simple pour, si on voulait sur Bing Chat, on pouvait utiliser ChatGPT grand public plus rapidement et en ayant moins de limites, en fait. C'est pour ça que les gens sont mis de manière massive à utiliser Bing et Edge aussi. C'est un bon combo, en fait. Et grâce à ça, ça aurait permis enfin de le pousser un peu plus et plus rapidement, comme Bing d'ailleurs. Ils vont peut-être arriver à faire plein de choses sympas, ou même attirer en tout cas beaucoup d'utilisateurs, enfin Microsoft avec toute leur gamme de services que maintenant ils possèdent, aussi bien Edge, Bing, je crois qu'on n'en avait pas dans les précédents podcasts de Clever, mais dans Message à caractère informatif, mais aussi bien dans Word, dans Windows. Je sais pas, peut-être bientôt dans GitHub. Il y avait déjà GitHub, c'était
Autopilot,
Autopilot ou Copilot.
Compagnon.
Ouais, Compagnon. Peut-être qu'il y aura
Copilot plus. Vous êtes sur la totalité du set de code, y compris le code privé.
Donc ça va peut-être pas tarder à arriver aussi là-dessus, quoi.
Après, moi, j'avoue, j'ai beaucoup utilisé OpenAI pour générer des fanfictions mêlant Quentin et Sandrine Rousseau. voilà, j'ai épuisé tous mes tokens OpenAI comme ça. On coupera au montage, c'est ça? Mais voilà, du coup, je suis un peu dégoûtée parce que.
On ne coupe jamais au montage, mais bon, il y a des choses que les gens n'ont pas besoin de savoir, tu vois.
Oh, écoute, c'est de domaine public, c'est bon.
On peut déjà rappeler qui est Sandrine Rousseau.
Non, mais on ne fait pas de pub à ça. Par contre, ça veut dire quand même que la thèse de Google, qui aujourd'hui est effrayée par le lien entre OpenAI et Microsoft et le fait que ChatGPT puisse révolutionner la search et derrière la search leur capacité à faire de la pub, est quand même assez justifiée parce que 100 millions d'utilisateurs actifs par jour comme ça, c'est un chiffre quand même, quoi. Et du coup, pendant ce temps-là. Il existe des gens qui créent d'autres compétiteurs à ChatGPT et qui sont intéressants. Et Judu, tu voulais nous parler de Claude, c'est ça?
Oui, Claude, donc c'est un projet d'une entreprise qui s'appelle Anthropic. Anthropic, globalement, c'est des gens qui font de l'intelligence artificielle. Voilà. Là, c'est un article du 14 mars, donc c'était avant-hier, qui parle donc de Claude, qui est leur intelligence artificielle. Qui parle donc de Claude, leur intelligence artificielle, qui, en tout cas, leur but, c'était de faire une intelligence artificielle qui soit harmless, j'ai perdu le mot, qui ne soit pas dangereuse. Et qui puisse potentiellement, enfin, qu'on puisse la configurer aussi pour être sympathique ou moins sympathique, etc. Et l'article est essentiellement un showcase de leurs différents clients ou partenaires. Donc, ils citent Quora, ils citent DuckDuckGo, ils citent Notion, donc pour aider les gens potentiellement à écrire des articles ou ce genre de choses. Moi, j'ai trouvé...
Ah, la AI de Notion qui est pas si mal foutue que ça, là, c'est du Claude. Enfin, c'est du Anthropic, quoi. Ok. Ouais.
Donc voilà, donc, ils travaillent déjà avec eux et l'idée c'est que Claude c'est leur nouveau produit, en tout cas la nouvelle version de leur produit. Voilà, il y a DuckDuckGo aussi et il y a par exemple Robin AI qui fait du légal, globalement des contrats, etc. et qui utilise Claude pour écrire, on espère, des contrats, des meilleurs contrats, ou évaluer des parties de contrat pour dire si ce contrat a du sens légal, ou est-ce qu'il est compréhensible par des clients, et comment est-ce qu'on pourrait réécrire cette partie-là du contrat pour que le client soit capable de comprendre cette partie-là, c'est-à-dire que ça ne soit pas trop écrit en technico-légal, mais qu'en même temps, une fois que le contrat est signé, le paragraphe soit quand même liant et soit pas puisse pas poser de problème plus tard s'il y a un problème avec le contrat. Enfin, s'il y a un problème dans la relation qui a été contractualisée. Donc voilà, ils mettent en avant côté anthropique le fait que ils essaient de l'entraîner sur des modèles qui ne sont pas dangereux, donc il y a potentiellement un travail sur les modèles à la base, et que potentiellement, bon, ça c'est un truc assez classique, hein, mais ils mettent des exemples de si quelqu'un essaye de l'insulter, le truc peut dire bah, écoute, non, je ne t'aiderai pas si tu commences à m'insulter. Des exemples de comment est-ce que tu rends ton interface un peu friendly, par exemple, et pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner le numéro de commande auquel vous faites référence, ou alors donnez-moi le numéro de commande auquel vous faites référence. Voilà, ce genre de choses. Donc, à surveiller, je pense, parce qu'il n'y a peut-être pas que ChatGPT dans la vie. Et pour le coup, Google avait fourni.
Ouais, c'est juste Venture en fait qui est rentré. Hein.
Ouais,
c'est-à-dire que c'est quand même très loin de. Tu vois, c'est très loin de quoi. Ouais. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation Google, il y a un bras armé financier qui s'appelle Google Venture. Mais enfin, Google Venture, c'est quand même très très loin. Enfin, c'est très très loin des préoccupations opérationnelles des gens de chez Google. Donc ouais. C'est pas nécessairement. Enfin, quand Google investit. Ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose d'un point de vue produit. Ça veut dire que Google a mis du blé dans une boîte. Quoi. Mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire autre chose. Quoi.
En tout cas, voilà. Et donc, Claude est censé être l'intelligence artificielle avec laquelle il fait bon discuter. C'est pour ça que c'est un prénom français.
Moi, je vous ai mis un petit lien juste derrière, un truc qui s'appelle Linux Puzzle. Donc c'est une série de petits tests un peu marrants à faire pour apprendre à utiliser la CLI. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la CLI, c'est plutôt cool. Et il est un peu marrant dans sa construction parce que en fait ça boot réellement un Linux dans une page web avec un en fait derrière c'est un Linux qui est compilé en WASM. WebAssembly. J'ai trouvé ça assez drôle. Voilà, je suis amusé. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était amusant, que c'était cool. Et...
C'est pédagogique.
Voilà, et alors, un truc assez drôle, c'est que bah, comme c'est un vrai Linux, etc., il récupère tes touches clavier en considérant que tu es du QWERTY par défaut. Et donc, ils te disent dès le premier niveau, si tu veux changer, utilise telle commande, l'autre qui est la commande. Mais quand même par défaut. Et sachez qu'on peut faire qu'on peut passer en bépo sur ce.
Toujours. Julien, t'as fait du bépo, c'est pour ça.
Donc c'est bon, c'est un Linux complet.
Voilà, je sais pas si ça vous évoque des choses. Bon. Avançons.
Non. C'est bien, hein, franchement, au niveau pédagogie, c'est bien, hein, pour ceux qui n'ont jamais touché du Linux.
Diffuser. C'est toujours une bonne chose. Toujours dans Linux, donc QEMU est en train de bosser, parce que pour moi, il n'est pas complètement prêt, mais QEMU est en train de bosser sur sa version 8.0. Et dans la version 8.0 de QEMU, il y a un truc assez amusant. Il supporte les hosts Xen. Alors le Xen paravirtualisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup pour la faire très courte, quand Xen a démarré, on n'avait pas encore les instructions VT dans les processeurs, et donc du coup on pouvait faire de la virtualisation en paravirtualisation, c'est-à-dire qu'en fait on modifiait un kernel host et un kernel client, et en fait les deux du coup pouvaient se parler, et du coup on faisait ce qu'on appelait de la paravirtualisation, en permettant en fait aux deux de communiquer ensemble, et en, du coup en boutant dans un process du kernel host, un kernel client. Eh bien, ce protocole de paravirtualisation et ces appels kernel en interception sont maintenant ajoutés au sein de QEMU, et donc vous pouvez faire tourner des hosts Xen dans QEMU, ce qui devrait aider beaucoup de gens dans des infra legacy. Voilà. Et sinon, la liste de changelog de QEMU autour de RISC V est très impressionnante. Il se passe plein de trucs en RISC V, comme on dit très souvent. Je ne sais pas si ça vous évoque des choses, ce point-là, ou si je passe à la suite de ma vie.
Alors, le change log.
Globalement, la plupart des guests sur KVM, c'est déjà plus ou moins de la paravirtualisation.
Oui, mais alors, ce n'est pas situé au même niveau de la virtualisation. Parce que, donc, virtualisation et paravirtualisation font partie de ces mots qui se sont quand même retrouvés un jour dans une ruelle sombre et il aurait arrivé plein de trucs. Mais si tu veux, tu peux expliquer ce qu'est la paravirt. KVM, ce qu'on appelle paravirt du KVM.
Yes, le paravirt, en fait, la virtualisation, le principe, c'est que tous les appels qui sont faits à du hardware sont flanqués, enfin, sont plus ou moins émulés, ou en tout cas sont filtrés par l'hyperviseur. Et c'est quelque chose d'extrêmement lent. C'est-à-dire que globalement, à chaque fois que l'hyperviseur enfin, à chaque fois que le guest, en l'occurrence, essaie de faire une opération vers du hardware ou vers quelque chose qui est censé être un peu protégé, ou globalement sortir de sa zone de mémoire qui est assignée, en fait, l'hyperviseur, enfin, c'est le processeur qui le fait, mais globalement, la machine virtuelle est mise en pause, c'est-à-dire que le processus est arrêté. On redonne la main au processus hyperviseur, qui va s'occuper de faire l'opération à la place de, ou de simuler l'opération, ou bref, ou de l'interdire, ou je ne sais pas quoi, et ensuite de relancer la machine virtuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement lent. Et donc, pour tout ce qui est réseau, pour tout ce qui est, pour tout ce qui est I/O, etc., on a trouvé des solutions qui consistent à justement modifier, enfin, avoir des drivers dans le guest, et brancher enfin, faire croire au guest qu'il est branché, enfin, faire croire. Au lieu de brancher le guest directement sur quelque chose de physique, on le branche sur des buffers et le guest a des drivers qui sait discuter avec le host avec ses buffers, donc ça évite de faire des interruptions de tout le guest à chaque fois qu'il y a quelque chose un peu enfin, qui sort de l'ordinaire, enfin qui sort de l'autorisé plutôt. Et donc ça, c'est techniquement de la part de virtualisation.
Ouais, en fait, c'est un bus de communication qui va du bucket, enfin qui va de la machine virtuelle à la machine hôte. Et en fait, c'est un bus de communication direct. Et en fait, ces bus de communication direct qui du coup existent permettent d'aller beaucoup plus vite. Ce qu'il faut bien comprendre en virtualisation, c'est que souvent les gens ont l'impression que le temps il est perdu au niveau du processeur. En fait, en virtualisation, le surcoût d'utiliser de la virtualisation d'un point de vue processeur dans l'OS, coûte rien. Ce qui coûte, c'est l'émulation des drivers, en fait. Et pour être tout à fait franc, même à une époque, les cartes réseau ou les écrans ont émulé réellement l'électronique de la carte réseau. Le tout démarrage de VMware, c'est ça. C'est on émule, en fait, des processeurs Broadcom. Et donc, évidemment, c'est hyper lent. L'intérêt de faire ces ponts-là, c'est qu'en fait, ça devient hyper rapide. Et pour vous donner des idées, enfin, c'est pour ça que moi, à l'époque, j'étais très... Je trouvais que les comparaisons, en fait, entre Docker et la virtualisation étaient souvent très fausses, parce qu'en fait, ça n'utilisait pas les bons modes de virtualisation et ça utilisait le mode host de Docker, c'est-à-dire sans filtrage. En fait, faire une filtration du réseau en userland plutôt qu'en kernelland et utiliser des drivers pas bien émulés en termes de réseau, évidemment, c'était hyper lent. Mais en fait, si tu renverses le truc, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que nous, par exemple, on boot des machines virtuelles en moins d'une milliseconde dans notre function as a service. C'est qu'en fait, c'est hyper rapide. Le truc qui est chiant, c'est l'émulation, en fait, des drivers. Et en fait, l'émulation des drivers, c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre. Donc c'est un truc qui s'appelle Virtio et qui est un protocole. Il se trouve que KVM est capable de l'appliquer dans Linux, mais c'est pas les seuls à être capables de l'appliquer dans Linux. Et notamment, aujourd'hui, Cloud Hypervisor et RoseVMM utilisent le même protocole de discussion en paravirtualisation sur les couches physiques que KVM. Et donc, en fait, ça devient des protocoles standards de communication entre les process. Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans mon explication là.
Moi, j'ai trouvé ça clair.
Julia, tu as trouvé ça clair?
Ouais, et émouvant.
Et émouvant. Mais en fait, c'est assez intéressant. En fait, moi, j'en veux beaucoup à VirtualBox, VMware & Co. d'avoir fait passer la virtualisation pour... tu émules un ordinateur dans ton laptop. Parce qu'en fait, la virtualisation, c'était plutôt un SDK d'utilisation intelligente des capacités de filtrage dans les différents rings du processeur. Et c'était ça, en fait, la vertu. Et du coup, je suis assez triste que ce soit devenu autre chose. Et voilà. Bon.
Sans transition.
Alors là, il n'y a pas de transition. Une proposition de Pierre, une newsletter. Pierre, parle-nous de Rembobine.
Alors, Rembobine, c'est une newsletter qui lutte contre l'infojetable et prolonge l'impact des enquêtes journalistiques. En gros, c'est quoi ? J'ai découvert via un podcast qui s'appelle Mediarama. Et Rembobine, en fait, cette newsletter, elle va prendre un article qui a été écrit dans l'APQR ou dans la presse nationale. Et elle va revenir dessus, un peu comme le fait peut-être 21, mais ils vont recontacter les journalistes de base qui avaient fait un article profond. Par exemple, c'était sur, je crois, Rue 89 Strasbourg, en a fait un sur l'hôpital psychiatrique. Et ils vont continuer l'enquête. Ils vont demander, ils avaient fait un certain constat, un peu comme des fois fait Mediacité en relançant certaines infos sur le long cours, enfin sur le moyen terme plutôt. Et eux vont revenir 6 mois plus tard, des fois 1 an plus tard, et creuser de nouveau le sujet sous le même angle qu'avait fait le journaliste, en allant un peu plus profond. Ça permet déjà de remettre sur le devant de la scène l'article en question, qui avait eu des fois pas mal d'échos sur la scène locale ou nationale, et de recreuser le sujet et d'apporter, en fait, c'est remettre une pièce dans la machine, ou le remettre en lumière pour une nouvelle catégorie de population. Et c'est un format qui est assez intéressant, je vous invite à le découvrir. La publication, je crois que c'est tous les mois, si je ne me trompe pas, mais ça, c'est bien fait pour le coup. Bonne découverte.
Je viens de m'abonner.
Ouais. Bah écoutez, je m'y mets également. Ça m'intéresse. Je constate. Alors ça fait partie des trucs. On les sort chez Clever et on n'en parle absolument jamais. Et donc Julia, t'as décidé de nous parler de l'outil Cellar Migration. Donc même si ne citera pas ici, le nom de code interne était mais beaucoup plus classe. Hein.
Ouais, mais nous n'avons pas. On ne le citera pas ici. Voilà, il fallait être là.
Non, le juridique a dit non.
Le juridique a dit même pas en rêve, les gens. Donc, Cellar Migration. Alors, c'est parti d'un problème qu'on avait. Parce qu'il y avait un client qui avait un bucket S3, mais gigantesque. Il avait, je crois, il avait 90 millions d'objets. C'était énorme. Il fallait le bouger, ce S3. Il fallait qu'il sorte d'Amazon. Et donc, on a commencé à regarder des solutions parce qu'évidemment, booter un R-Clone depuis son ordinateur pour faire la synchro comme on ferait avec n'importe quel S3 lambda, ça ne marchait pas parce que ça prenait des plombes. Et donc, il fallait laisser de faire tourner un ordinateur, un serveur constamment. Donc, on s'est dit, on va chercher le moyen de lancer ça sur un de nos runtime chez Clever et que la migration se fasse tranquillement. On n'a rien trouvé qui était satisfaisant, donc Arnaud, chez nous, Arnaud Lefebvre, l'a codé à partir d'une cli qu'il avait conçue en Rust pour au départ nos cellars, pour synchroniser les cellars entre eux et puis les propager. Donc j'étais tombée sur le Big Slurper de Cloudflare, dont je suis très fan du nom. Et c'est, le principe était ça, c'était d'aspirer du stockage S3, du stockage object chez Amazon et de les emmener sur leur serveur. Le problème, c'est que leur truc est en bêta, on s'est dit on va tester notre truc et finalement on est arrivé à quelque chose qui fonctionne et qui peut être lancé. Il y a tout le README qui explique la procédure, etc. Et donc big up à Arnaud parce que on est resté très tard certains jours pour tester le truc et voir les erreurs qu'on avait. C'était pas forcément hyper intuitif parce que la configuration pour synchroniser un S3 avec un cellar, c'est pas exactement la même chose que synchroniser de manière de stocker identique. Donc ça a été implémenté et on a consommé beaucoup beaucoup de RAM pour le tester et finalement ça fonctionne. Voilà. Donc c'était très drôle à faire. Je ne sais pas si Arnaud dirait la même chose. En gros, c'est lui qui codait et moi qui testais et qui lui disait ça marche pas. Et donc on revenait dessus. Et voilà, globalement, ça marche très bien. Je suis hyper contente de ce truc. J'espère qu'un jour, il sera inclus dans du clic-clic bouton dans la console pour que les gens puissent tout simplement mettre les infos de leur S3 et hop. En revanche, ça va coûter une blinde à migrer parce que Amazon facture des grisfilles incroyables. Voilà, à ce propos, il y a des gens qui ont déjà réussi à se faire rembourser ces frais. Je pense notamment à DHH. De chez Basecamp, ouais. Il a fait un procès à Google Cloud pour des grisfilles qu'il considérait comme abusifs. Et puis c'est une teigne, le mec il s'accroche quand il a décidé qu'il voulait un truc, il ne lâche rien. Et donc il a réussi à se faire rembourser les grisfilles. Et je me dis que s'il y a plus de gens, parce que enfin vraiment juridiquement ça a été déclaré comme étant abusif, donc pas la totalité, mais une grosse partie, je crois que c'est à peu près plus de la moitié qu'il a réussi à se faire rembourser, ce qui est pas mal. Donc voilà, je pense que c'est une démarche que peut-être des gens peuvent avoir, je sais pas, je lance l'idée là comme ça.
Parce que c'est vrai que chez Amazon, ouais, c'est un peu une stratégie. On t'offre 100 000 $ pour venir mettre tes données et au moment où tu veux pas payer trop cher, tu essaies de partir chez un concurrent et en fait ça te coûte plusieurs millions de sortir ta donnée de S3 et ben, du coup tu restes.
Bah, il y a des gens qui n'ont tout simplement pas les liquidités pour payer ça. Et puis, ça met beaucoup de temps. Le S3, il est super lent à synchroniser parce que l'object storage, c'est lourd à bouger. Donc, en vrai, tu mets ça dans un bucket et ça ne bouge plus, quoi. Entre ça et les frais, en plus, c'est facturé à l'heure chez Amazon. Bon, ça coûte une blinde, ouais, effectivement. Ouais. Mais il y a des stratégies, encore une fois, des HH qui... David... le CEO de Basecamp, il a réussi à avoir gain de cause. Voilà, l'idée est là.
Est-ce qu'il a réussi à avoir gain de cause après avoir suivi un tuto TikTok ?
Oui, parce que la news suivante proposée par Pierre est assez étonnante. Pierre, je te laisse nous expliquer ce qu'est cette news.
Eh ben, au détour de la lecture de Next Impact, je suis tombé sur une news assez improbable, qui m'a fait à peu près le même effet que vous, c'est qu'il y a le nombre de vols de voitures aux États-Unis qui a doublé à cause des tutos TikTok et YouTube. Donc, j'imagine qu'il y a des tutos maintenant sur TikTok et YouTube où dire comment voler une voiture. Et du coup, suite à ça, ça a doublé. Enfin, les gens volent plus de voitures, du coup. Et merci, du coup, les réseaux sociaux. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les gens s'approprient bien, du coup, les réseaux sociaux et comprennent bien comment ça marche. Et j'imagine qu'il y a des... Je sais pas, t'as des, qu'on appelle ça des influenceurs, peut-être spécialisés dans le vol de trucs, qui font des tutos. Et je trouvais ça vraiment assez original comme approche. Cela dit, j'ai fait la même chose pour déboucher, je sais pas, mes toilettes. J'ai été aussi sur YouTube, comment déverrouiller, c'était quoi le haut des toilettes pour accéder au ballon d'eau et le réparer. Je pense qu'en fait, les gens font la même chose. Comment voler la BMW 3S, je ne sais pas, qui est dans ma rue. Et merci TikTok, quoi. Merci YouTube.
Mais c'est exactement ça. C'est l'utilisation, enfin, c'est le sens d'être de l'Internet premier. Quand j'étais en Argentine, ma pote, elle avait oublié le code de sa valise. Elle l'avait fait un peu à l'arrache. Elle ne se souvenait plus du code. Donc, sa valise était verrouillée. Moi, ma proposition première, c'était de défoncer la valise. Tant pis, rip. Mais finalement, on a trouvé sur Internet un tuto qui montre comment retrouver le code, comment déverrouiller une valise sans connaître le code. Et on a suivi ça, ça a marché, on était là en mode, mais vive l'Internet. Mais vraiment, chaque jour, on remercie l'Internet, quoi, parce que bon, ça a sauvé la valise, finalement, c'est pas mal.
Et donc, ça a amélioré ton bilan carbone.
Ouais, vite fait, je me sens pas trop coupable. Valise.
Tant que t'as la parole, tu nous parles de ton lien suivant, Mark Deep.
Ah, Mark Deep, alors c'est Casual Effect qui fait ça. Alors, ça part d'un problème, comme tout. Moi, j'écris beaucoup en Markdown et il y a des moments, je dois partager des fichiers avec les gens qui c'est pas forcément hyper intuitif le Markdown. Soit ils l'utilisent pas, soit je veux l'afficher de façon un peu générale. Et donc là, il suffit de mettre, après le point MD, on met HTML et on ajoute un petit lien. vers, on ajoute un petit code dans notre fichier Markdown, donc moi je l'ai mis dans mes templates, et on peut envoyer le fichier, ça va s'afficher comme un fichier HTML avec un petit peu de CSS, un petit peu de magie, un petit peu de paillettes, et on peut aussi faire ses propres thèmes si on veut. Et on n'a rien à télécharger, on n'a rien à compiler, rien du tout, on fait juste ça. On partage le fichier, ça marche du tonnerre, j'aime trop. Je sais pas pourquoi j'aime autant, mais c'est vraiment très sympa. Voilà, donc j'avais envie de partager ça. Typiquement le genre de truc que je file sur mon blog, un peu les bêtises. Mais je trouve ça bien plus sympa que d'envoyer quand on a juste à partager un fichier pour que la personne prenne connaissance. Obsidian permet aussi de faire ça. Il y a un plugin qui marche très très bien, exporte HTML, mais de la façon correcte, Markdown vers HTML, et ça inclut le thème d'Obsidian qu'on a configuré avec sa belle petite, son beau petit index, ses beaux petits paramètres et tout ça. Et tout ce qu'on a dans Obsidian, on peut l'exporter comme ça. Donc voilà, tout ce qui est partage de fichiers Markdown sans passer par un éditeur de Markdown de l'autre côté, parce que les gens n'ont pas forcément ça, j'aime bien. C'est ma cam du moment.
J'avais une extension sur Chrome ou Firefox qui permet en fait, non je crois que c'est Chrome, qui permet de convertir un Google Doc en Markdown. C'est une intégration, tu sais, dans le marketplace de Google Doc. Et du coup, tu peux convertir ça très rapidement, en un clic, je crois. Et du coup, ton Google Doc où les gens ne savent pas faire du Markdown, hop, ça y est, ils en ont.
Ouais, mais moi perso, moi c'est l'effet inverse, c'est justement pour pas passer par Google Doc. Je connais l'extension et tout ça, elle marche pas super bien, mais c'est max pain hein, d'utiliser Google Docs. À chaque fois, je saigne, mes mains sont traumatisées de devoir taper sur cette interface. Donc,
ça fait des roulades au ralenti.
C'est ralenti, c'est pas. Tu pourras intégrer un lien, tu dois cliquer, faire tétati, mettre le lien. Enfin, c'est pénible. C'est très pénible, je trouve, comme interface. Donc bon, Markdown Power. Et puis pour les gens qui n'ont pas d'éditeur, il y a ça. Et puis pour les gens qui veulent convertir du Markdown et s'initier, ben ouais, pourquoi pas passer par Google Doc. Mais je vois vraiment pas l'intérêt de passer par Google Doc pour convertir en Markdown. En fait, autant le faire directement. Ça prend 5 minutes à apprendre. C'est vraiment pas la mer à boire, surtout avec des éditeurs de texte qui existent par pléthore. Ulysse est pas mal. C'est un logiciel fermé. C'est disponible que sur Mac. Mais c'est un bon plan. Ou d'autres qui sont référencés sur les sites qui parlent de Markdown, quoi.
Et tant qu'on est sur les bons outils qui se partagent, Julien, tu avais un outil à nous partager ?
Ça, je l'ai piqué à Pierre, justement.
Oui, attends, c'est moi qui l'avais posté, celle-là, ouais, c'est sur Slack, peut-être ?
C'est toi qui l'avais posté, mais en fait, ça m'amusait parce que, en fait, c'est pas un outil, c'est deux outils. Et je pense que c'est fait par les mêmes personnes, parce que quand tu regardes les sites, c'est exactement le même site. Donc, il y en a un qui s'appelle MyCLI et l'autre qui s'appelle PGCLI, qui sont globalement des réécritures de la CLI MySQL et PostgreSQL avec pas mal d'autocomplétion de syntax highlighting, etc. Qui peut être sympa si vous voulez être un petit peu aidé dans votre... Alors, sur MySQL, je trouve que c'est plus intéressant que sur PostgreSQL. Je vais m'expliquer pourquoi. Enfin bref, donc c'est assez sympa parce qu'avec la collaboration, ça vous aide à écrire du SQL où parfois on peut être un petit peu perdu. Là où je... À la base, moi, je... Enfin, on n'utilise pas trop MySQL en interne chez Clever Cloud. Et donc, j'avais plutôt tendance à tester PGCLI. Et en fait, c'était sympa, mais je me suis rendu compte que dans la commande de base PostgreSQL, quand on fait backslash e, ça nous ouvre un éditeur. Et moi, du coup, j'ai un Vim qui est très très bien configuré pour faire du SQL avec la complétion, etc. Et je préfère utiliser ça en général, même si le Vim en question ne me donnera pas la complétion sur ce qui se passe dans la DB. Mais voilà, ces outils sont assez sympas, et voilà, à tester. Faites attention par contre quand vous mettez à jour votre stack Python, parfois l'outil faut le réinstaller.
Bah, voilà, c'est bien que tu me le dises.
Voilà, les outils de l'épisode. Ah pardon, Julien, je t'en prie.
Non, je l'ai déjà téléchargé, c'est bon.
Déjà à fond.
À fond.
Ok, cool. Bah, écoutez, là-dessus, moi, je vous propose de vous laisser tous sur le sample de That's My People de NTM. C'est une découverte par Pierre. Et c'est un compte Twitter qui est très drôle, qui s'appelle SampleFR, c'est ça ?
Tu nous en parles
vite fait ?
Et ben, en fait, SampleFR recense la plupart des morceaux classiques qu'on connaît, enfin pas classiques, connus qu'on connaît actuellement, qui sont en fait basés sur des samples. Hein. C'est la musique n'est qu'un éternel recommencement et pompage, ou copie, ou inspiration. Voilà. Et ce morceau de NTM, qui est relativement connu, est basé sur un sample de Frédéric Chopin. Enfin, c'est un sample basé sur Frédéric Chopin, qui est un compositeur assez ancien pour le coup, hein, 1835-1839.
Romantique. C'est un romantique. Ok, et eh bien donc du coup, nous vous laissons sur ce petit morceau de Chopin tout doux. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode unique. Et puis, du coup, on reprend avec des invités très rapidement. Juste les uns derrière les autres, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Julien ?
@JuliaMarche avec deux H sur Twitter.
Pierre.
@SirChamallow sur Twitter et même chose sur Substack pour ma newsletter.
Julien.
Judu avec deux fois de U sur Twitter et pas encore Mastodon parce que
Et donc, moi, toujours le pseudo imprononçable WXZCE sur Twitter. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Merci pour cet épisode. Et puis, passez tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous nous écoutez. Merci, au revoir.
Salut. Merci.